Bonjour Blockbuster, moi je suis fan de Queen depuis toute petite grâce à mon papa. Proust avait sa Madeleine, moi j'ai Bicycle Race. Bonne journée à tous.
Salut Fred, salut l'équipe. Je voulais juste vous faire partager mon moment. Là je suis dans les embouteillages à 8h. Il est 19h, c'est galère. Et là je viens d'écouter en podcast avec les écouteurs, je sais que c'est pas bien mais c'est pas grave. Bohemian Rhapsody, et putain ça fait du bien. Et voilà, et je suis presque émue parce que Bohemian Rhapsody ça me fait toujours le même effet. Et ça fait du bien après une journée de taf.
Salut Blockbuster, trois choses à dire. D'abord, j'ai appelé ma fille Charlie en hommage au roman de Stephen King, même nom. C'est pas le plus connu, mais c'est mon préféré. Deuxièmement, je suis pas d'accord, Christophe Lambert, c'est un très bon acteur, notamment dans Highlander. Et troisièmement, Queen, c'est le meilleur groupe du monde, pour toujours.
Cécile, j'ai 66 ans, je suis une senior qui adore Queen. Depuis le début de votre émission, j'avais un petit peu de mal avec vos sujets parce que je suis un peu larguée. Mais alors là, Queen, merci mille fois, cette émission est magnifique.
Habituellement, je n'écoute pas du tout ce genre de musique. Et puis, il y a quelques années, à la suite d'un deuil important dans ma vie, je me suis mise à écouter Queen comme une sorte de fontaine de jouvence, de source de vie, et c'était devenu presque indispensable pour moi de balancer du Queen et de sentir l'énergie passer directement en fait de ce groupe à ma vie, et ça m'a vraiment vraiment soutenue d'une manière incroyable. Voilà.
To be or not to be, not to be.
Ça doit pas être si facile d'être Superman. Comme l'a écrit Tarantino dans Kill Bill, Superman, il se réveille, il est Superman. C'est pas comme Batman qui a dû s'entraîner, étudier la criminologie, les arts martiaux. Batman, par exemple, il reprend deux fois du dessert, tout de suite, ça va se voir dans son costume. Superman, il s'en fout, lui. Superman, il pourrait être obèse, il continuerait d'être aussi fort, parce que c'est le soleil qui lui donne ses pouvoirs. Il vole, il a sa vision à rayon X, sa super audition. Superman, il va devoir passer sa journée à faire moins que ce qu'il pourrait faire juste pour s'intégrer. Superman, il doit combattre sa nature en permanence. Il se lève super et il se dit « faut que je sois moins bon aujourd'hui ». Alors souvent les gens disent « oh moi j'aime pas trop Superman, il est trop lisse, il est trop naïf, tout ça ». Mais pas du tout. Il n'y a pas plus conscient que lui du cynisme de l'humanité. Je vous rappelle déjà que Superman, il voit à travers les murs depuis l'adolescence. Donc forcément, il a vu ses parents, Martha et Jonathan, s'envoyer en l'air. Et ça, franchement, ça te change un homme. Ensuite, Superman, t'as un cancer ou une tumeur, il le sait avant même que t'ailles chez le médecin. Superman, il entend tout ce que tu dis sur tes collègues de travail ou ta famille quand ils sont pas là. Si tu t'engueules avec ta femme, que tu bois en cachette ou que tu passes ton temps sur YouPorn, il le sait. Mais malgré ça, il a décidé de rester optimiste. Superman, il pourrait prendre possession de la planète en moins de deux. Il pourrait imposer le régime qu'il veut, mais il a choisi de ne pas le faire. Et c'est ça la plus grande leçon de Superman. Une leçon que bien des gouvernements devraient suivre. C'est pas parce que t'as beaucoup de pouvoir que tu dois tout te permettre.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
C'est la seule solution, Lara. Il faut qu'ils partent très loin d'ici.
Mais pourquoi je n'ai dit rien? Ce sont des primitifs en retard sur nous de milliers d'années.
Il lui faudra cet avantage pour survivre. Leur atmosphère lui sera salutaire. Il ressemblera à un terrien.
Mais il ne sera pas un terrien.
Non. Sa structure moléculaire d'une grande densité lui donnera la force.
Il sera différent.
Il sera rapide, pratiquement invulnérable.
Toujours seul.
Non, il ne sera pas seul. Il ne sera jamais seul. Tu voyageras loin, mon petit Kal-El. Mais nous ne te quitterons jamais. Même après notre mort prochaine. Toute la richesse de nos deux vies t'appartiendra. Tu me porteras en toi tous les jours, aussi longtemps que tu seras en vie. Toute ma force sera ta force. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père et le père, le fils. C'est tout ce que je te donne. Kal-El.
Alors que les super-héros sont omniprésents sur petit et grand écran, que les critiques et les professionnels ne cessent d'annoncer une usure du genre sans cesse démentie par les chiffres du box-office, on aurait tendance à oublier qu'avant d'être des films à grand spectacle produits par des studios avides de rentabilité immédiate, ces personnages viennent des comics. Ces fascicules qui continuent depuis 80 ans de narrer mensuellement l'histoire de ces dieux de papier que sont les super-héros. Et si Marvel et ses personnages trustent les médias, il ne faut pas oublier que la maison d'édition qui a créé le genre se nomme DC Comics. DC Comics qui a créé des héros tels que Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, sans oublier le mythique Batman. Alors pour parler de ces avatars contemporains des dieux de l'Antiquité, j'ai une équipe de Teen Titans dont je suis très fier ce matin. Tout d'abord, Xavier Fournet, bonjour.
Bonjour, merci pour le teen, ça fait longtemps qu'on m'avait pas dit ça.
Ben oui, mais je me suis dit, ça coûte rien et puis ça fait plaisir. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire des comics et rédacteur du regretté Comic Box, le meilleur magazine sur l'actualité du comics. J'étais abonné, je milite activement pour son retour.
Bon. Voilà. C'est bien.
Pierre Bisson, rédacteur pour le site Comic Box.
Bonjour Frédéric.
Bonjour. Arnaud Tomassini, rédacteur en chef de l'excellent site Comics Blog.
Oui, bonjour.
Bonjour. Connu par les fans sur le nom d'Arnaud Kikou.
Arnaud Kikou, tout à fait.
Arnaud Kikou. Voilà,
ça me fait plaisir de l'entendre sur France Inter.
Et Claire Rognaud, créatrice du blog Adam & Ender, un excellent blog également.
Merci.
Alors, ensemble, on retracera l'histoire de DC Comics, la genèse. Hey, j'ai dit genèse, pas dit genèse. Ça, les auditeurs sont contents. De ces mythes modernes que sont Superman, Batman et Wonder Woman, on verra qu'à travers les époques, c'est aussi une histoire et une vision des États-Unis qui s'est dessinée. De l'âge d'or à l'âge de bronze, comment ces héros ont pu évoluer avec le temps. Et surtout, comment, après 80 années d'existence, ces héros continuent d'avoir du succès en étant semblables et pourtant si différents. Vous êtes dans Blockbuster sur France Inter, tournez les yeux vers le ciel. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est Superman!
Gotham City, c'est une ville qui me donne toujours envie de sourire. Un monstre ailé terrorise. Vous n'avez encore rien vu. Oup, oup.
C'était bien évidemment un extrait du Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson en inoubliable Joker. Alors Xavier Fournet, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous retracer l'histoire de DC Comics ?
L'histoire de DC Comics se confond avec l'histoire de la bande dessinée américaine. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 ans, l'essentiel de ce qu'on trouvait en illustré pour la jeunesse aux États-Unis, c'était des recueils de BD qui paraissaient dans la presse quotidienne. C'est-à-dire qu'en gros, c'était l'équivalent du marché DVD pour les films, ou de la vidéo à la demande, il faut dire maintenant. Voilà, c'était le marché secondaire. Et vous aviez rentabilisé une BD sur le journal et vous sortiez après ça le supplément. Vous réimprimiez les épisodes dans des comics. Et il y a un type qui s'appelait le Major Wheeler Nicholson, qui était donc militaire de carrière et qui a été obligé de partir de l'armée vite fait parce qu'il avait envoyé une lettre de protestation au président, ce qui ne se faisait pas dans la grande muette. Il a échappé de peu à une tentative d'assassinat. Il s'est dit, il faut vite que je me trouve une autre carrière. Et son idée, c'était de faire des bouquins pour les enfants. Il en est venu à la BD qui émergeait à ce moment-là. Il n'avait pas les moyens de faire de la réimpression. Il s'est dit, on va créer de nouveaux personnages et on va faire des comics où il y aura de la production inédite dedans, des trucs qu'on n'aura pas vu avant les journaux. Donc c'était vraiment un peu comme s'il avait créé lui-même le marché.
D'accord. Et alors, ça s'est tout de suite appelé DC Comics ou ça a eu un autre nom ?
Non, ça s'est passé par différents noms intermédiaires. Le plus connu, c'était National Publication. Donc, c'était très, très patriotique dans l'idée. Mais c'était plutôt des histoires de détectives, de maîtres de l'étrange, de spécialistes du camouflage. C'était plutôt des choses pseudo-réalistes et puis des petites histoires d'animaux marrants, de lapins qui parlent, des choses comme ça.
Alors, on date un peu la création du genre super-héroïque avec la création de Superman. Mais quel est l'historique de la création de Superman par Jerry Siegel et Joe Shuster ?
Alors déjà, il faut dire que Superman n'est pas le premier super-héros, mais c'est lui qui cristallise le genre. C'est-à-dire qu'avant, les gens faisaient des super-héros sans s'en rendre compte, et que d'un seul coup, le succès de ce personnage-là a imposé la reconnaissance du genre. D'un seul coup, tout le monde a pris conscience des codes de ce truc-là. Avant, il y avait des personnages comme le fantôme de la jungle ou le fantôme du Bengale. Doc Savage, qui est un peu intermédiaire. Il y avait plein de choses comme ça. Eux, donc les créateurs de Superman, Siegel et Shuster, en 33, se mettent dans l'idée de créer une sorte de surhomme qui est pas du tout sympa, qui veut conquérir la Terre, qui a plein de pouvoirs, qui est un peu un type qui a été soumis à l'expérience d'un savant fou et qui, du coup, dans le dans le cycle d'une nouvelle illustrée, essaie de conquérir la Terre, mais...
Qui s'appelle Bill Dunn, je crois.
Ouais, et en fait, il a fait une erreur, puisque c'est pas lui qui a inventé cette machine qui le transforme en surhomme. Il l'a détruit pour être sûr de pas avoir de concurrence, mais il avait pas compris qu'il fallait recharger les pouvoirs de temps en temps. Donc, comme cet idiot a détruit la machine, eh ben, c'est la panne sèche au bout de quelques aventures, et du coup, il peut pas conquérir la Terre. Ils arrivent pas vraiment à décoller avec cette idée-là, et pendant 5 ans, ils revoient sur le tapis différentes versions de ce personnage-là, jusqu'au moment où chez ce qui est connu sous le nom de DC Comics, on veut lancer un magazine qui s'appelle Action Comics. On ne sait pas comment le remplir et il y a un gars qui dit mais il y a ces petits jeunes qui m'ont amené cette histoire incroyable de type qui brise des voitures et choses comme ça. Et au début, ils ne veulent pas. Ils disent on va être la risée du marché. Personne ne voudra croire cette idée de type qui peut soulever une voiture. C'est complètement ridicule. Et puis finalement, les délais sont ce qu'ils sont. Donc ils mettent Superman dans Action Comics et ça devient un succès immédiat.
Et d'ailleurs, ils n'y croyaient tellement pas qu'ils ont abandonné les droits d'auteur à DC Comics.
Alors, c'est un peu plus simple et compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, une bande dessinée lui conférait l'idée d'œuvre. C'était vraiment de la science-fiction. L'idée de propriété intellectuelle en était à ses balbutiements. Donc, ils étaient très contents dans le contexte de l'époque et surtout qu'on parle de jeunes garçons qui avaient pas 20 ans. Hein. Ils étaient très contents d'empocher $130 pour la production de ce premier épisode. Là où ça se gâte, c'est qu'effectivement, le succès du personnage a été tel que ça a généré très vite beaucoup d'argent et là, ils n'étaient pas dans la boucle.
D'accord. Alors, histoire de rester dans le ton, on va désormais écouter Who's the Batman, interprété par Patrick Stumm dans le film Lego Batman, sorti en 2017 et réalisé par Chris McKay. C'était Who's the Batman, interprété par Patrick Stump dans Blockbuster sur France Inter. J'en profite pour vous dire que le personnage de Lego Batman sera de retour dans la grande aventure Lego 2 sur nos écrans en février 2019.
Je suis désolé de venir vous déranger comme ça, mademoiselle, mais je pense qu'il y a énormément de gens à travers le monde qui se posent une foule de questions.
Oh, bien sûr, oui. Je vous sers un verre de vin ?
Non, merci, quand je vole, je ne bois pas.
Oh, merci. Bien, dites-moi, est-il vrai que vous pouvez voir à travers n'importe quoi ?
Ah oui, c'est vrai, enfin, presque n'importe quoi.
De quelle couleur sont mes sous-vêtements ? Excusez-moi, ma question vous gêne.
Oh non.
Oh si, j'en suis sûre.
Non, mademoiselle, oh, non, je crois que ce bac à fleurs est en plomb.
Oui, en effet.
Eh bien, c'est ça, j'ai des difficultés à percevoir à travers le plomb.
Ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'où exactement ?
Je viens de très loin, d'une autre galaxie, d'un monde différent. Je viens d'une planète nommée Krypton. Krypton.
Oh, Krypton ! Ah oui, ça s'écrit C-R-I...
Non, ça s'écrirait plutôt K-R-Y-P-T-O-N.
À quelle vitesse vous êtes capable de voler ?
Oh, je ne sais pas au juste. En fait, je n'ai jamais pris la peine de me chronométrer.
Non.
Dites-moi, et nous pouvons le savoir.
De quelle façon vous comptez vous y prendre ?
Faites un tour avec moi.
Vous êtes sérieux ?
Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? On y va.
C'était un extrait du Superman de Richard Donner avec Christopher Reeve dans le rôle de Superman et Margot Kidder dans le rôle de Lois Lane. Alors, Superman est un personnage que tout le monde connaît, mais derrière la création de Superman, il y a aussi tout un tas de mythes qui sont un petit peu rassemblés derrière Superman. On retrouve Moïse comme ça retrouvé dans son berceau, etc. Le seul survivant d'une civilisation disparue. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi ces emprunts à la grande histoire pour la création de Superman? Arnaud?
Alors, je sais pas si je pourrais te l'expliquer correctement, mais enfin, je pense qu'on retrouve quand même dans le personnage de Superman un peu de l'historique aussi de Jerry Siegel et de Joe Shuster qui ont émigré, qui ont leurs origines aussi juives. Donc, je pense qu'ils empruntent forcément aussi à leur culture religieuse et aussi de voir du coup Superman comme un étranger. Et enfin, je pense que c'est une partie qui est importante de ce mythe et qui essaye, parce qu'il doit composer du coup avec le fait qu'il vient pas d'ici, qu'il doit s'intégrer également, et aussi le fait qu'il est au-dessus des autres et qu'il a du coup cette posture un peu messianique, c'est vraiment une figure christique, et en même temps il a le pouvoir d'être au-dessus des gens, et en même temps il essaie de se rapprocher de l'humanité, de composer en fait avec la partie humaine qui vient aussi de l'éducation qu'il a reçue de ses parents du coup qui viennent, parce qu'il a pas connu vraiment ses parents kryptoniens.
Et c'est d'ailleurs l'American Way of Life, le rêve américain, c'est quelque chose d'assez fort dans Superman, parce que il tombe chez ses fermiers dans une ferme du Kansas à Smallville, qui lui apprennent vraiment c'est les États-Unis de Norman Rockwell. Il y a quelque chose de très on voit dans une autre saga qui est parue des années plus tard, Red Son, où il tombe chez les Russes, et c'est un autre Superman qui apparaît. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'embrasser l'idéal américain. Pierre Bisson ?
C'est vrai qu'il atterrit quand même dans une petite ville du Kansas où on peut pas faire... Enfin, c'est pas comme s'il atterrissait à New York ou dans une ville cosmopolite. Il atterrit vraiment dans le cœur de l'Amérique profonde. Et malgré ça, ses parents lui inculquent, comme vous dites, l'American Way of Life. Et du coup, ça montre que d'où on vient, aux États-Unis, on peut s'intégrer. Et après, même si on est étranger de ça, mais il lui intègre les valeurs américaines pures, on va dire... Donc c'est assez intéressant de l'avoir fait atterrir dans une toute petite ville campagnarde et pas dans la grande métropole. C'est comme si nous, il atterrissait, je sais pas, dans le fin fond de la Normandie et pas à Paris, quoi. C'est...
Oui, mais de toute façon, moi, je serais à sa place, je préférerais la Normandie. Claire Regnault, j'aimerais qu'on parle de la création du personnage de Clark Kent, parce que contrairement à d'autres super-héros, lui, il a pas besoin de créer un costume de super-héros ou il crée une identité civile. Donc Clark Kent, qu'est-ce que ça vous évoque, Clark Kent ?
À Clark Kent, c'est effectivement l'homme qui, c'est un peu Monsieur Tout le Monde. Enfin, il essaye. Et à la différence de la plupart des héros, il n'a pas besoin de cacher sa super identité. Au contraire, il va se créer une identité pour pouvoir passer inaperçu, pour pouvoir se fondre dans la masse et effectivement devenir être aimé pour lui-même, pouvoir interagir en fait avec son entourage. Et ce personnage de Clark Kent est vraiment un rôle qu'il va jouer au quotidien, à la différence de Superman, qui est son identité principale.
Et alors, je sais que Siegel avait lui aussi des lunettes et qu'il était fasciné par un acteur de comédie burlesque, Harold Lloyd, et qu'il s'est inspiré de lui pour créer Clark Kent. Est-ce que c'est vrai?
Il s'est aussi inspiré d'un journaliste dont j'ai complètement oublié le nom, dont on a retrouvé la photo qu'il avait envoyée au dessinateur. Donc non, il y a une espèce de mélange de personnes là-dedans. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait toute la distribution de Superman, est inspirée de gens qui ont vraiment existé. Et la jeune fille qui servait de modèle pour Lois Lane est devenue bien des années plus tard l'épouse du scénariste. Donc
sa manière détournée de lui avouer ses sentiments.
Apparemment non, c'est qu'ils ont
même pas.
Tout le temps ils ont travaillé ensemble, ils n'ont pas réalisé, et après quelque part Lois Lane est devenue une réalité.
Alors tout le monde connaît Batman, Superman ou Wonder Woman, et Chloé Brassière, la Lois Lane de Blockbuster, est allée enquêter pour voir ce que les gens avaient à dire sur ces super-héros.
DC Comics, je connais surtout pour les méchants, qui sont ultra emblématiques, et je dirais même plus que les héros de base.
Alors je suis plutôt Team Marvel, mais paradoxalement, DC, c'est les seuls films qui m'ont donné envie vraiment d'acheter des comics. Après avoir vu le film Wonder Woman, j'ai acheté mes premiers comics Wonder Woman.
Ce que j'aime dans l'univers DC Comics, c'est vraiment Batman, ou les bons films qui ont été faits sur Batman. Ceux de Nolan et puis ceux de Tim Burton. La façon dont les deux ont créé un Joker totalement différent, Tim Burton plus en rapport avec les comics, je pense, totalement loufoque, bariolé comme pas possible. Et l'autre, c'était Heath Ledger, qui était plus réaliste, plus sale. Ouais, c'est une interprétation totalement différente, mais qui est évidemment exceptionnelle.
L'univers BD, super-héros et tout, ça n'a jamais été un truc qui m'a attiré, parce qu'en fait, je trouve que ça se répète.
Pour ceux qui aiment Batman, je leur conseille de lire La Cour des Hiboux, parce que pour moi, c'est le meilleur album de Batman. Il est vraiment trop bien. On tombe un peu dans les méandres psychologiques de Batman à un moment donné, et je trouve ça super intéressant.
Alors moi, j'étais pas trop BD quand j'étais petite. J'aimais beaucoup en fait toute l'imagerie, donc j'avais beaucoup de t-shirts DC Comics, même Marvel. J'avais les casques aussi audio, mais sauf qu'en fait, je connaissais pas du tout. C'était juste pour faire genre.
Je rappelle que vous pouvez toute cette semaine, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, DC Comics. Alors on a entendu dans le micro-trottoir, j'adore DC Comics, ce que je préfère dans DC Comics, c'est les films. C'est quand même paradoxal que tous ces personnages viennent de la BD et qu'aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est des films.
C'est ce que j'appelle le syndrome de James Bond.
Xavier Fournier.
C'est-à-dire que effectivement, c'est des personnages très connus, alors parfois même connus au-delà des films. Il y a plein de gens qui connaissent le logo de Batman, de Superman, de Wonder Woman, pour lesquels ça veut dire des choses qui sont pas forcément des fois liées au film. Vous avez une grande audience de ces films-là, vous avez beaucoup moins de gens qui lisent les comics, et quelque part, des fois, ça crée des interactions assez bizarres avec le matériel de base. Moi, je compare toujours ça, je le faisais un peu hors antenne. C'est un peu comme si on vous demandait qu'est-ce que tu penses d'être mousquetaire, et que la personne dise j'ai vu le film. Donc, sans vouloir jouer les puristes, il y a souvent à la base des comics, une richesse de discours qui, parfois, résumé sur 2 heures de temps dans une salle obscure, se perd un peu.
Mais ce qui est fou, c'est que l'industrie du comics ne va pas très très bien, alors que les chiffres des comics adaptés en film sont faramineux. Donc comment ça se fait qu'il n'y a pas une sorte de passage, de relais entre les jeunes spectateurs qui ont pu découvrir des super-héros sur grand écran et la lecture de la bande dessinée?
Franchement, je pense qu'il y a un fossé de toute façon. Enfin, de toute façon, que l'idée même de ceux qui vont voir les films vont après lire des comics, je pense que de toute façon c'est un mirage. En fait, c'est une sorte de fantasme qu'on a qui de toute façon ne se vérifie pas justement par les chiffres. Après, quand vous dites que le comics se porte pas bien, en vérité, en tout cas sur le marché américain, il était en constante augmentation jusqu'en 2016. Ça fait que depuis l'année dernière, depuis 2017, qu'on a fait une baisse. Donc, je pense que ça stagne et que ça a du mal à prendre, mais que c'est pas forcément, je pense que c'est limite indépendant en fait des films, parce qu'on observe justement des techniques qui consistent à relauncher. On va faire des retours numéro 1, annoncer beaucoup d'events, ce qu'on appelle des gros blockbusters sur papier, ou multiplier des initiatives commerciales comme faire plein de couvertures pour un seul numéro, qui en fait sont délétères pour le marché américain. C'est pour ça qu'on voit cette stagnation, ou même que ça prend pas, parce qu'il y a une certaine lassitude. Et aussi parce que les films, du coup, enfin, Je pense que les gens qui vont voir des films en fait de super-héros se disent ben je vois une histoire et j'ai pas forcément envie d'aller m'investir là-dedans, parce que si je pense que sur le marché américain, vu que les comics se trouvent dans les comic shops, qui sont pas, il y en a pas forcément partout dans toutes les villes, que c'est pas disponible sur les grandes surfaces, bien qu'il y a des éditeurs qui essaient de faire changer les choses en ce moment, ben t'as pas envie de rentrer dans cet univers qui semble un petit peu fermé. Et je pense que c'est une question d'accessibilité et qui peut se retrouver aussi en France, parce que on se dit ben je vais aller lire des comics, c'est vrai que nous on peut aller à la Fnac voir les rayons avec les albums de Panini et du Urban. Mais c'est toujours pareil, c'est par quoi je commence. Il y a des tomes 1, il y a plein de tomes 1. Par quel personnage commencer? Est-ce qu'il faut que j'aille?
L'univers est trop vaste pour un lecteur qui voudrait se lancer.
Bah, disons qu'il faut toujours être accompagné. Ce qui est bien, c'est d'être accompagné, donc d'aller se renseigner. On n'a pas toujours quelqu'un pour aller faire cette démarche. Et c'est vrai que il y a aussi ce phénomène un peu de répétition avec ces retours au numéro 1 qui peuvent très vite créer un sentiment de lassitude. Et on estime quand même que le lectorat de comics, une fois que quelqu'un se lance, il y a quand même une forte chance qu'au bout de 2 ans, en fait, il a un peu fait le tour s'il suit au jour le jour et que ça finit par lasser. Ce qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de très bonnes histoires qui sortent encore actuellement, mais c'est vrai qu'il faut peut-être mieux alors commencer par les anciens, par ce qu'on appellerait les classiques, pour vraiment pouvoir se lancer. Mais je pense que ça demande vraiment un accompagnement.
Alors, Pierre Bisson, on a parlé de Superman, mais j'aimerais parler aussi de l'autre membre de la Trinité, avant d'évoquer Wonder Woman, c'est évidemment Batman. Est-ce qu'on peut resituer la création de Batman?
Bah, Batman est né en 1939, si je ne dis pas de bêtises, dans Detective Comics 27. Et donc lui, c'est un petit garçon qui perd ses parents dans une ruelle, abattu par un criminel, et de lui-même décide de devenir le meilleur homme possible, on va dire, intellectuellement, physiquement, et de lutter le crime. Et il se dit que comme il n'a pas de pouvoir, ce qu'il peut faire, c'est insuffler la peur à ses victimes, et il choisit la chauve-souris pour symbole. Et c'est vrai que c'est le... On parlait de Superman tout à l'heure, c'est un peu l'opposé, puisque lui n'a aucun pouvoir, il est humain, il résiste pas aux balles. Alors certes, il a plein de gadgets, une voiture de luxe, plein d'armes qu'il invente lui-même et qu'il crée. Voilà, il est millionnaire sous le nom de Bruce Wayne. Mais il reste, face à Wonder Woman, Superman ou ses camarades de la Justice League, le seul humain. Mais malgré ça, il arrive à s'imposer et à leur faire concurrence quelque part. Et c'est vrai que c'est un personnage qui, après, a son propre folklore, qu'on connaît, ses ennemis comme le Joker, qui se prend son acolyte Robin. Enfin, il reste il a un univers tellement vaste qu'il reste encore populaire aujourd'hui.
Et on n'a pas donné le nom des créateurs de Batman.
Bob Kane et Bill Finger.
Surtout oui. Bill Finger, du coup.
Surtout Bill Finger, qui s'est fait un peu avoir dans l'histoire.
Oui, mais justement, c'est ça que je voulais vous faire dire. Parlons un petit peu de Bill Finger, et après on fera le questionnaire chiffre, mais parlons de Bill Finger.
En fait, Bob Kane, qui est le dessinateur, avait vu le succès de Superman et avait été voir l'éditeur en disant « je veux vous faire aussi un type qui vole ». Donc il avait proposé un héros blond dans une tenue rouge et bleue avec des ailes de chauve-souris. Et les gars ont dit « ben non, on veut pas cette pâle copie inversée de Superman, on va avoir des problèmes avec les auteurs si en plus on leur file à l'intérieur de la maison une copie ». Et donc ce Bob Kane s'en va tout dépité dans une soirée où il rencontre un vendeur de chaussures, je crois. Donc Bill Finger, qui est fan de littérature pulp policière et qui lui dit « pourquoi t'en fais pas plutôt un personnage nocturne et compagnie ?» Et le gars dit, travaillons ensemble.
Un peu comme le Shadow.
Voilà, exactement. Ouais. D'ailleurs, le premier épisode de Batman est un copier-coller du Shadow. Le scénariste a carrément pris des phrases et des choses comme ça. Et donc, Bob Kane retourne voir DC avec cette version nocturne du Batman. DC le prend en constatant effectivement que c'est un personnage contraire à Superman. Et Bob Kane oublie juste de leur préciser qu'il a engagé un scénariste. Donc le type s'est fait avoir sur la création du truc et est mort dans la misère au début des années 70 dans un motel, enfin vraiment le premier super vilain de Batman quelque part c'est Bob Kane.
C'est Bob Kane. Et DC Comics a mis un certain temps avant de créditer Bill
Finger.
Alors
après c'est tout un problème légal, parce qu'il faut d'abord, il a fallu des années avant qu'ils se rendent compte de l'existence de la problématique, et puis il faut revenir dessus, et puis vous avez la famille des ayants droit, donc ils ont trouvé une espèce d'arrangement à la connue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les BD, dans les crédits de Batman, on vous dit qu'il a été créé par Bob Kane avec Bill Finger. C'est une manière d'éviter le terme de co-créateur. Bill Finger était un auxiliaire de la création de Batman.
Et c'est vraiment depuis très peu de temps, parce qu'en fait, il y a un auteur qui s'appelle Mark Tyler Nobleman qui a écrit un bouquin dessus qui s'appelle Bill the Wonder Boy, dessiné par Ty Templeton, vraiment où il allait, parce que justement ça l'intéressait cette histoire, il a sorti ce bouquin, il allait contacter la petite fille de Bill Finger encore en vie qui s'appelle Athena Finger, et l'accréditation en fait de Bill Finger, je crois qu'elle date de 2016, vraiment c'était avec Gotham et Batman vs Superman, où vraiment on a commencé à voir, en tout cas dans les œuvres grand public, cette accréditation, et que c'était juste une année avant où ça a commencé à réapparaître dans les comics. Donc c'est vraiment tout récent.
Vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. 1939, c'est l'avenue de Broadway, le numéro de l'immeuble où se trouve le siège social de l'entreprise DC Comics. C'est l'année d'apparition du personnage de Batman ou l'année d'apparition du personnage de Wonder Woman.
L'apparition de Batman en 1939.
Mais évidemment, évidemment, je savais que ça allait être facile. Si je vous dis le chiffre 9, c'est en centaines de milliers le nombre de ventes effectuées par la série de comics sur Batman en 1966, en dizaines le poids de Batman, ou en centaines de millions le nombre de dollars rapportés au box-office pour le film Batman vs Superman, l'aube de la justice, sorti en 2016. 9.
J'irais plutôt Batman vs Superman quand même, même si c'est pas 900 millions, c'est un petit peu moins, ouais, c'était 857 je crois, mais...
873.
73,
voilà. Eh ben non, 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 en fait c'est en centaines de milliers le nombre de ventes effectuées par la série de comics sur Batman en 1966. Époque d'ailleurs où on a lancé la série Batman complètement pop psychédélique. Si je vous dis le chiffre 36, c'est le nombre de séries adaptées des comics de DC Comics, c'est le nombre de films prévus par DC dans les années qui viennent, ou c'est le nombre de films adaptés des comics de DC Comics.
Je dirais plus facilement le troisième peut-être.
Eh bien oui, bonne réponse, c'est le nombre de films adaptés des comics de DC Comics. 36, eh bien écoutez, c'est un bon résultat. Eh bien, on va se récompenser avec une chanson. Et dans ce florilège de super-héros, on va laisser la place à un jeune chanteur français. On pourrait croire que son nom sort lui aussi d'un comics, mais non, c'est Moodweed et il chante Reptile. C'était Reptile de Moodweed sur France Inter. Il vient de sortir un tout nouvel album Cité Champagne et il sera en concert à la rentrée le 29 septembre à Besançon, le 18 octobre à Laval et le 14 novembre à Paris à la Maroquinerie.
Cela semble être un mélange de deux langues. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas réussi à déterminer lesquelles.
L'Ottoman et le Sumérien. Oui, j'imagine que je ne suis pas la seule à le savoir dans cette pièce.
Qui est cette femme ?
C'est ma secrétaire générale.
Et elle comprend l'Ottoman et le Sumérien.
C'est une excellente secrétaire.
Faites-la sortir.
Général, si cette femme sait lire ceci, nous devrions écouter ce qu'elle a à dire.
Écoutons toujours.
C'était un extrait de Wonder Woman de Patty Jenkins. Alors comme le rock, le rap ou les jeux vidéo aujourd'hui, dans les années 50, les comics ont été accusés de pervertir la jeunesse. Notamment un psychiatre nommé Frederick Wervam. Et lui, les comics, eh bien, il aime pas.
Un plan prévoyant la censure des comic books et l'utilisation des pouvoirs de police pour empêcher la diffusion des sujets jugés répréhensibles a été convenu hier à la mairie. Cette décision fait suite à de nombreuses plaintes, accusant certains comics de contribuer à la délinquance juvénile par leur contenu immoral et leur tendance à glorifier le crime et les criminels.
Alors, on l'a entendu, Frederick Wervam a vraiment milité pour faire interdire les comics, et j'ai notamment un extrait des propos de l'analyse qu'il avait sur les comics, donc je vais vous le lire tout de suite. Non seulement le meurtre n'est plus considéré comme un crime qui doit être puni, mais il est récompensé. Le meurtre est héroïque. C'est cette même habilité à transcender toutes les lois humaines qui fonde le succès de Superman. Au lieu d'apprendre aux enfants la soumission à la loi, Superman glorifie le droit de chacun d'imposer sa propre loi. Au lieu d'être brave et courageux, Superman vit dans la terreur coupable permanente, projetant à l'extérieur l'agressivité interne du lecteur. Depuis 10 ans, les efforts fournis pour produire des victimes à lyncher pour Superman et ses disciples les comics ont seulement donné aux enfants un cours complet de mégalomanie paranoïaque comme aucun enfant allemand n'a jamais eu au plus fort du nazisme. Voilà comment Frederick Wervam donc parlait du comics. Donc vraisemblablement, on s'en rend compte, il n'aimait pas trop ce média.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, en fait, c'est un idiot pétri de bonnes intentions. C'est-à-dire que à la base de la croisade anti-comics de Wertham, il y a un article qui traitait d'un jeune garçon noir qui avait tué quelqu'un, et l'article se régalait de dire que ça prouvait la violence des gens de couleur. Et Wertham s'est mis en devoir de prouver que ça ne pouvait pas venir de la couleur des gens, à plus forte raison parce que il y a aussi des blancs qui sont meurtriers. L'intention était louable, et il s'est dit, ça vient forcément de l'éducation. Non, ça peut pas être l'éducation, donc c'est ce qu'on fournit aux jeunes. Et il a trouvé son bouc émissaire dans les comics, et là il est parti dans un truc, je sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, mais ça a été assez spectaculaire.
Le problème, c'est que ça a eu des répercussions extrêmement importantes pour le milieu du comics, parce qu'ensuite il y a eu un code qui s'est créé pour censurer, valider ou non certains messages dans les comics.
Faut savoir qu'à la base, de toute façon, il y a ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est-à-dire que Wertham annonce des choses qui sont fausses, c'est-à-dire que un gamin qui lit Batman ne peut à aucun moment s'imaginer que ça glorifie le crime. À chaque fois, le méchant est puni. Enfin, c'est sans, y a pas de méprise possible sur la moralité de l'histoire. Et lui annonce une couleur complètement faussée à des gens qui ne lisent pas vraiment les BD de leurs enfants, et il va les paniquer. Ça va donner lieu à, d'ailleurs, de manière synchrone, il y a des centaines d'autodafés aux États-Unis. Dans les petits scouts, les écoliers, on leur faisait empiler leurs comics dans les cours d'école pour les brûler. Alors, parfois avec la participation du clan du coin, alors c'est des photos complètement hallucinantes, tout en étant convaincu que forcément tout ce qui est crime, ça vient des comics, et on se demande vraiment comment le crime existait avant l'invention des comics.
Et alors, Wertham, c'est comme ça qu'on dit, on dit pas Wervam, hein, c'est ça?
Je sais pas, le prononce un peu comme... Non, c'est un T, hein,
c'est un T.
Après, à l'américaine, on le prononce un peu de manière avalée, on va dire.
Bon, bah, je vais l'appeler Frédéric, comme ça
voilà,
sera plus simple.
Fred.
Alors, Frédéric, il avait effectivement des problèmes avec Superman, il avait des problèmes avec Batman et Robin, la relation ambiguë entre Batman et Robin, et il avait aussi des problèmes avec Wonder Woman, et ça me permet de faire une transition toute trouvée pour parler du dernier membre de la Trinité, Wonder Woman. Est-ce que quelqu'un peut parler de la création de ce personnage par William Moulton Marston, un personnage complètement iconoclaste? Qui veut se lancer?
Moi, peut-être.
Allez-y. Claire Gagnon.
Wonder Woman a été créé en 41. Il faut dire que le professeur William Moulton Marston part du principe, effectivement, en observant les comics, il y a énormément de personnages masculins. Il faut savoir qu'on a parlé de Superman en 38, en 39 on a Batman, en 41 on a Flash, on a Green Lantern aussi. Donc voilà, des super-héros pétris de bonnes intentions, de super-pouvoirs, mais qui montrent surtout une image très masculine. Et il a fervent défenseur des femmes, amoureux des femmes aussi. On verra aussi avec sa propre histoire.
Il est adepte du polyamour, je crois.
Tout à fait, voilà. Il a sa femme, il a une ancienne étudiante également dans sa vie. Il est relativement discret, mais ça va quand même lui porter quelques préjudices dans son propre parcours. Mais en créant Wonder Woman, il a envie d'offrir en fait aux jeunes filles un personnage féminin dans lequel elles vont pouvoir se reconnaître, s'identifier. Un personnage donc qui va être fort, qui va être intelligent, qui va être beau aussi. Il sert un idéal féminin qui va pouvoir montrer aux filles, aux jeunes filles, qu'elles peuvent être tout aussi indépendantes que les hommes, qu'elles peuvent assumer les mêmes fonctions et avoir confiance en elles. Et donc ça passe à travers toutes les activités, au sport, etc. Et c'est vrai que ce personnage de Wonder Woman, à sa création, au départ, est là pour contrebalancer les autres personnages. Donc c'est vrai qu'il le... Il la crée aussi forte, il la crée l'égale des hommes, et surtout, de par son origine sur son île, elle n'a pas besoin.
Mais c'est une Amazone.
Voilà. En tant qu'Amazone, elle s'est créée toute seule, avec des femmes, et c'est vrai que, en tant que jeune fille, on a d'un coup envie de s'identifier à cette femme, on n'a pas forcément envie de s'identifier à la femme des années 40 qui va être soumise, qui va être docile et obéissante.
Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les trois personnages dont on parle, les trois sont des paraboles différentes sur l'éducation. Dans Superman, on a ce discours incessant sur qu'est-ce qu'il emporte, les origines ou l'éducation. Dans Batman, on a un gamin qui est obligé de s'élever sans ses parents, de s'éduquer tout seul pour devenir l'expert en tout que l'on sait. Et dans Wonder Woman, on a une espèce de truc à la Rousseau, où où le discours est de dire quel regard peut porter sur nous quelqu'un qui vient d'une société totalement extérieure. C'est un peu Tarzan à New York. Donc on a à chaque fois vraiment trois discours différents sur l'éducation.
Et Wonder Woman, en plus, n'a pas de parents, vu qu'elle est censée avoir... Enfin, si, elle a une mère, mais elle est censée avoir été créée dans la glaise.
C'est toute la problématique. En 41, comment expliquer aux jeunes lecteurs que sur l'île des Amazones, la reine des Amazones est une petite fille? C'est impossible de s'en partir dans des choses qui, de toute façon, à l'époque, sont impossibles. Donc la PMA, des choses comme ça, c'est pas possible. Donc on invente un truc mythologique. C'est-à-dire que la reine des Amazones a taillé une statuette de glaise, et les dieux grecs ont insufflé la vie à cette tête de glaise, qui est devenue un bébé, qui a grandi, qui est la petite princesse Diana.
Et alors, c'est peut-être une légende, mais j'ai aussi entendu dire que William Moulton Marston était un des responsables du détecteur de mensonges.
Ouais, il a travaillé sur la pression, des tests de pression sanguine, ou alors je sais plus quel est techniquement le mot, mais enfin toujours quelque chose, une sorte de prototype du détecteur de mensonges. Il a d'ailleurs essayé de filer ça au FBI, qui n'était pas du tout convaincu à l'époque. Et en plus, ça donne quelque chose de complètement surnaturel, c'est-à-dire que lui et son épouse, qui travaillaient elle aussi sur ces techniques-là, étaient convaincus qu'un monde meilleur viendrait de la vérité. Ça veut dire que lui, son épouse et sa maîtresse se prenaient des tests sanguins en se regardant les yeux dans les yeux, en disant « Est-ce que tu m'aimes ?» Donc c'était une ambiance très particulière sur les Moulton Marston les soirs, quoi. C'était bizarre.
Et du coup, ça donne une orientation plus spécifique au lasso de la vérité de Wonder Woman.
Wonder Woman est une parabole de la vie privée de l'auteur. Le lasso, c'est la réincarnation de son détecteur de mensonges. La reine Hippolyte, c'est le portrait craché de son épouse. Et Wonder Woman, avec ses bracelets, qui sont un accessoire de sa maîtresse, c'est vraiment le portrait craché de la maîtresse. Donc c'est vraiment une recomposition de sa vie privée.
Et alors, là, on parle de l'âge d'or de DC Comics, mais ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'âge d'argent et l'âge de bronze. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs quels sont ces différents parcours qui ont eu lieu chez DC Comics?
L'âge d'argent, c'est cette période assez particulière où justement l'industrie du comics était soumise au Comics Code Authority, donc une forme d'autocensure, où justement, pour éviter, il y avait tout un tas de thématiques qu'il fallait plus aborder. Et beaucoup de publications en fait partent dans des gros délires un peu hallucinés, où Superman va sur des planètes bizarres avec des robots géants, des aliens, Batman aussi. Il y a plein d'histoires en fait qui sont complètement folles. Et je sais que Xavier a fait quelques chroniques dessus, par exemple, où Supergirl s'est prend d'un cheval.
À l'époque, par exemple, c'était pas politiquement correct d'imaginer qu'une jeune fille puisse embrasser un garçon avant le mariage. Donc pour imaginer qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme vie privée, ils ont imaginé qu'une comète avait transformé son cheval en jeune garçon. Donc elle tombe amoureuse du jeune garçon. Ils se courtisent mutuellement, puis à un moment, elle se rend compte que c'est son cheval, donc leur amour est impossible. Il y a quand même un esprit malade quelque part qui s'est dit que c'était plus sain que Supergirl tombe amoureuse de son cheval plutôt que de lui trouver une vie normale, quoi.
Et alors, c'est aussi l'époque du Batman des années 60, avec Adam West et Burt Ward en Batman et Robin, avec ces onomatopées qui apparaissent en gros sur l'écran. Et mine de rien, c'est une image de Batman qui s'est imposée aux spectateurs pendant longtemps.
Ouais, et puis ça a permis vraiment de relancer, de faire le succès, enfin de déclencher une première Batmania avant celle de avec Tim Burton, mais qui a vraiment repopularisé le personnage. Qui, enfin, il y a quand même eu un moment où en fait les comics Batman ont failli s'arrêter. Donc heureusement, ça n'a pas été le cas, où justement il y a eu cette entreprise qui a été faite et la série des années 60 même. Enfin, je pense qu'elle fait partie d'un patrimoine culturel de la même façon que nous on a des vieilles séries qui sont pour nous. Et c'est quelque chose qui vit encore actuellement. Il y a même des bandes dessinées Batman 66 qui continuent d'être publiées. Ils ont fait des films d'animation où Adam West avait même repris avant son décès la voix de son personnage pour ça.
Et à quel moment on mesure le changement d'orientation éditoriale de DC Comics vers quelque chose de plus sombre?
Vers le Bronze Age. Mais en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est plus sombre, mais c'est plus ancré dans la société où il y a quand même des thématiques qui commencent à... Où en fait, les auteurs et scénaristes se rendent compte qu'on ne peut plus non plus faire des comics que pour... Enfin, que ce n'est pas que pour les enfants, qu'il y a aussi des choses à dire sur le monde dans lequel on vit.
Il y a deux trucs qui changent. C'est que d'abord, dans les années 60, on arrive à une deuxième génération de scénaristes. Et surtout, c'est la première génération née lecteur. Les créateurs de super-héros dans les années 30 et 40, par la force des choses, avaient lu des choses complètement différentes. Là, on arrive à une génération de lecteurs fans, et puis qui ont envie de faire grandir leurs personnages de la même manière qu'eux ont grandi. Et après, il y a aussi une raison moins noble, c'est que vers la fin des années 60, les grands créateurs de comics, qui étaient par exemple Gardner Fox, le créateur de la Justice League, ces gens-là voient effectivement arriver des feuilletons à la télé, des dessins animés, et disent « on veut plus de sous ». Donc il y a une tentative d'organisation de grève des scénaristes en particulier à l'époque, et la réponse de DC Comics c'est de débarquer tout ce beau monde et de trouver de nouveaux scénaristes.
Alors c'est l'heure du blind test made in Blockbuster. Un blind test intitulé « De quels super-héros on parle ?» En effet, les super-héros DC ont été adaptés en film, en série, en dessin animé. Saurez-vous retrouver de quelle version on parle ? Extrait numéro 1.
La police de Gotham City déclare la guerre à Batman.
Grand Dieu, ce Batman est sans cesse en butte à la haine des autorités.
Oui, allez-y.
C'est Batman la série
Quelqu'un
animée.
Se fait Batman la série animée, évidemment, avec la voix française de Richard Darbois. Voilà, et aux États-Unis, c'est Kevin Conroy.
Oui.
Qui est pour moi le seul Batman. Voilà, c'était juste le moment geek.
Beaucoup le pensent.
Son suivant.
Le nom de l'île sur laquelle on m'a retrouvé est Lian Yu. C'est du mandarin.
Oui, bonne réponse de Pierre Bisson. Voilà, c'est Arrow, effectivement.
La série télé qui marche encore aux États-Unis, un peu moins en France, mais
oui.
qui cartonne aux États-Unis et qui va commencer sa 7e saison.
Oui, d'ailleurs, il y a un nouveau trailer qui est accessible là. Bah, toutes les séries CW. Ouais.
C'est au comique. Ouais.
Son suivant.
Terminez les tests. Ça suffit, je ne joue plus.
Je sais ce que vous ressentez.
Vraiment?
Oui, peut-être bien que je le sais.
Ah, Pierre Bisson a une idée?
Je suis désolé.
Ou alors il se gratte.
Mais si vous...
ça peut être soit l'un, soit l'autre.
Vous allez m'aider.
L'un n'empêche pas l'autre.
Ah.
Ce costume rouge, il ne me suffit pas.
Ah.
Pourquoi?
Je veux Fournier, une idée?
Qui cache mon visage?
Oui, Flash, la série des années 90.
Costume rouge, ça m'a aidé.
C'est ce que je regardais.
Qui est en pleine Batmania, justement. Ils ont relancé la série Flash, avec notamment Mark Hamill, Luke Skywalker de Star Wars, en Trickster. Et qui fait aussi la voix du Joker dans la série animée Batman. Voilà, c'est une sorte de la boucle est bouclée. Son suivant.
Il y a des milliards d'années, une race d'immortels canalisa la force la plus redoutable qui ait jamais existé.
Un film qui a été l'objet de nombreuses blagues méta.
Green Lantern,
bonne réponse d'Arnaud Tomassini avec Ryan Reynolds. Voilà, Ryan Reynolds qui a désavoué son film...
Sauvagement,
parce que désormais il joue Deadpool et Deadpool dans le dernier, je vais spoiler, attention, hein, éloignez-vous si vous voulez. Eh ben retourne dans le temps pour tuer Ryan Reynolds avant qu'il joue dans ce film.
Ce qui est injuste parce que honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était loin d'être le pire parce que les Catwoman et autres
oui, réalisé par Pitoff,
mon Dieu,
français.
Mon Dieu.
Ouais, on ne veut pas forcément du bien aux États-Unis. Son suivant.
Ils t'ont blessé?
Tu sais bien que non.
C'est pas ce que
c'est
je te
Man of Steel.
Demande. Je te demande ce
mais
que
oui,
tu...
évidemment, Man of Steel avec le papa Jonathan Kent qui est joué par Kevin Costner. Voilà. Alors Man of Steel qui pour moi est quand même là, c'est vraiment le geek qui parle, mais vraiment une sorte de blasphème par rapport à Superman, parce que là on a effectivement un père de famille qui ne vend pas les qualités de l'Amérique à son fils. Hein.
Après, peut-être qu'il est conscient de l'Amérique telle qu'elle est, qui a peur de l'autre, qui je sais pas si c'est un discours
Le problème de Man of Steel, alors que par ailleurs un film qui a certaines qualités, hein, moi je globalement je l'ai bien aimé, mais c'est que c'est un film déjà fait à quatre mains. DC Comics, Warner sortait du succès de Nolan, et donc on a pris Nolan dans la production de ce film-là. Il y a Snyder aussi, et ils ont clairement deux définitions différentes de l'héroïsme, et ça arrête pas de se contredire de scène en scène. Et c'est vrai que le père joué par Kevin Costner, à un moment c'est un peu, faut pas que je te prenne à faire du super-héroïsme, tu es appelé à faire de meilleures choses que ça. Et quoi?
Oui.
Enfin, voilà, le discours du père est incohérent.
Après, ça permet de comparer avec l'autre père, justement, Jor-El, qui lui réapparaît, qui lui dit, par contre, si là, faut que tu sois une lumière, faut que tu guides les autres. C'est juste, en fait, l'opposition, du coup, entre les, enfin, c'est toujours les origines et l'éducation. C'est vrai qu'on n'attend pas forcément cette éducation de la part de Jonathan Kent.
Oui. D'accord. C'est un point de vue qui se défend.
Mais j'ai pas aimé.
Bravo. Vous avez gagné quand même. Vous avez quand même gagné une chanson, parce que ça a été excellent. Il y a mes réalisatrices qui me disaient, ah, ils vont pas trouver. J'avais dit, si, ils vont trouver très vite, tu vas voir. Donc, on va maintenant écouter un peu de pop rock avec Génération L, un morceau du chanteur londonien L.A. Salami, tiré de son tout dernier album, The City of Bootmakers.
I call my own. I'm wasted on the loss of my childhood home. I'm tasteless, but I can charm a beer. Say that it's hopeless. We'll be right back.
C'était Génération L du londonien L.A. Salami. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter. Alors, on a parlé de DC Comics, la maison d'édition, mais j'aimerais aussi qu'on parle des adaptations DC au cinéma. Arnaud Tomassini, quel bilan on peut tirer de ces premières adaptations ? Qui ont moins de succès quand même que les adaptations Marvel.
Oui, alors bon, c'est quelque chose qui fait encore beaucoup débat dans la communauté de fans. C'est que en fait, en lançant Man of Steel en 2013, il y avait une idée sous-jacente dans les plans de Warner, c'était de contrecarrer ce que faisait Marvel Studios de l'autre côté avec Avengers, et donc d'avoir le plus rapidement possible un film Justice League. Et je pense que c'est quelque chose qui a été précipité et qui a surtout entraîné pas mal de conflits en fait entre la vision d'un réalisateur, donc Zack Snyder, qui avait ses propres idées sur les personnages qu'il voulait adapter avec un Superman qui fait la gueule, enfin qui se remet beaucoup en question, un Batman très à cran, très millerien, et que cette vision-là était pas forcément compatible avec
millerien,
le fait de...
c'est Frank Miller.
Ouais, de Frank Miller, ouais. Et qui c'était pas forcément compatible avec l'idée de réunir des super-héros ensemble et de les faire travailler ensemble, surtout quand tu vois le Batman tel qu'il était dépeint. Ce qui est arrivé au final, donc il y a eu plein de problèmes, c'est que Justice League a fait moins que Man of Steel au final au box-office, et que là par contre il semble aller dans une autre direction.
Non, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est pour ça. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour la participation. Hein, donc, on pourra encore parler DC Comics, mais malheureusement, le temps nous presse. Alors, on se retrouve demain pour parler d'anneaux précieux, de hobbits randonneurs et d'elfes qui se la racontent. On va parler du Seigneur des Anneaux, mais tout de suite dans le débat de midi. Bonjour Dorothée Barba.
Et bonjour à tous. Le débat de midi porte sur votre t-shirt, Frédéric Sigrist, parce que voilà, le t-shirt Batman est omniprésent dans ce studio. Et la police de la mode ne cautionne pas t-shirt Batman. On parle de fashion police. Quels sont
mais
les vêtements?
Si vous savez ce que je lui dis à la police de la mode.
Être interdit avec les réactions des auditeurs sur franceinter.fr.
Merci Dorothée.